On est en train de continuer notre petite étude sur Jacques. On est encore dans le premier chapitre. On a tellement de choses à voir dans ces épîtres qui sont nécessaires pour le corps de Christ, pour nous apprendre que la vie chrétienne n'est pas si facile que ça, puis c'est une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. J'espère que je vous apprends pas que la vie chrétienne, c'est un combat. J'espère que vous en êtes aperçus, puis que vous êtes déjà en train de combattre. Parce que si vous n'avez pas compris encore que c'est un combat, ça veut dire que vous faites piétiner depuis que vous êtes chrétien. Parce que l'ennemi, il attaque. Puis si on s'en rend pas compte qu'on mange des baffes par l'ennemi, mais comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Ça n'arrêtera jamais. Il faut réaliser qu'il y a un combat. Puis ce soir, le passage qu'on va voir, c'est dans Jacques 1, les versets 13 à 15. La question qu'on répond, la première question, d'où proviennent nos désirs de péché?
Satan.
De Dieu? De notre chair? Du monde ou du diable?
Du monde puis de notre chair.
Ouais, mais c'est une bonne question.
Mais
Jacques va répondre là-dedans, dans ces passages-là. Il y en a qui, parce qu'on va le voir dans cela, c'est qu'ils pensaient que c'était Dieu qui mettait ça le péché en eux. Puis Jacques, il répond dans cette lettre-là, dans ce passage-là. Que dit Jacques au niveau de nos désirs de péché? Jacques, dans Jacques 1, 13 à 15, ça dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Parce qu'il y en avait qui disaient que c'était Dieu qui les tentait, que le tison ou la convoitise ou la passion ou ce qui était l'attrait dans le corps de la personne qui attirait les gens à désobéir à Dieu ou à pécher, ils pensaient que c'était Dieu qui faisait cela. Il dit que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, qu'ils disent « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, puis il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, ce qui est l'effet qu'on a quand on est tenté, on a le goût d'y aller, là. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Puis le péché étant consommé, produit la mort. C'est ce qu'on va voir ce soir. Fait qu'il y a déjà des réponses, si on noie sur blanc, tout en partant. C'est pas Dieu qui nous tente quand on a des tentations dans notre corps de faire des péchés. Personne peut dire que Dieu met en eux le désir de pécher. Dans Jacques 1, 13, ça donne la réponse. Dieu peut pas être tenté par le mal, puis il ne tente lui-même personne. Mais Dieu nous a créés avec un corps de chair. Que ce corps de chair-là, lui, il n'a des désirs, des tentations, des attirances, des pulsions, des convoitises, des passions. Il est attiré par toutes sortes d'affaires qui l'excitent, puis qu'il a le goût d'aller à des choses que Dieu veut pas. Là, j'espère que je vous apprends rien, puis j'espère que vous le saviez déjà que votre corps a des désirs contraires à la volonté de Dieu.
J'ai dit tantôt, c'est pas facile.
C'est pas facile, puis on est en guerre. Puis là, on va s'apercevoir avec ce passage-là qu'on est en guerre contre, premièrement, nous-mêmes. On a à combattre notre corps dans lequel on est enveloppé. C'est le fun d'être vivant, oui, mais notre corps veut nous attirer dans plein de choses que Dieu aime pas, puis qu'on a à contrôler ses élans. On a à faire même mourir ses élans. Dieu, lui, pour dire que c'est pas Dieu qui est tenté par le mal, là, Dieu, il est esprit, il est pas chair comme nous. Il est esprit. Lui, il a pas ça, ces désirs-là de sexualité ou des désirs de courir après les richesses l'amour de l'argent, ou de courir après les acceptables, puis de saouler, puis de se droguer. Dieu n'a aucun de ces désirs-là, c'est notre corps qui a ça. Lui, Dieu, il est esprit. Puis en plus de ça, Dieu, il est saint. Il est sacré. Dieu, il est pur. Il n'y a pas de mal en lui. Fait que tout ça, là, ce que nous autres on a, ça vient pas de Dieu. C'est là, c'est dans le corps que Dieu nous a donné, oui, mais c'est pas Dieu qui fait cela. Il veut nous faire réaliser ce soir que c'est là, puis qu'on a à combattre contre cela. Fait que Dieu, vu qu'il est Dieu, il est esprit, il est saint, il est pur, mais il n'est pas attiré par le péché. Dieu n'est pas attiré par le péché. Dieu, s'il nous demande d'être saint, parce que lui est saint, il nous demande d'être saint. Il nous demande de marcher d'une manière pure. Fait que quand on parle que dans l'homme, il est attiré par ses propres convoitises, ses propres désirs, ses propres passions, ses propres pulsions, ses propres choses. Chacun, c'est différent. On a tous des désirs et des passions différentes. Des pulsions différentes, des intérêts pour des choses, c'est différent. Il y en a que la boisson, ça lui dit absolument rien, mais le sexe, ils sont pognés par le sexe, ou d'autres, ça va être l'amour de l'argent, ou d'autres, ça va être la drogue, d'autres, c'est d'autres choses. On a tous des pulsations sur quelque chose. Il n'y a pas une personne qui est sans péché. On a tous, mais il faut apprendre à se contrôler. Dans Jacques 1,14, on a une réponse, ça dit « Chacun y est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est notre propre convoitise qui fait qui nous attire, qui nous amorce, qui nous excite, qui nous fait désirer des choses défendues. Je parle pas, tu as le goût de manger une bonne lasagne, ça c'est pas un péché, c'est un bon désir. S'il y a des bonnes affaires, là, c'est pas tout qui est péché, mais t'as des choses, t'as des pulsions qu'on t'a à contrôler. Quand on parle de attirer par sa propre convoitise, là, le mot qu'il y a là, le mot convoitise, c'est convoitise, désir, passion, vivement, passionné, désiré. Fait que notre corps a des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des désirs, des convoitises, des désirs pour ce qui est défendu, la luxure, qui est le luxure, c'est les plaisirs sexuels en dehors du mariage. Fait que tout ça pour vous dire, c'est dans la nature de l'homme, puis chaque fois qu'on a ces désirs-là, de se saouler, de se droguer, etc., c'est nos convoitises personnelles qui nous alimentent. Le monde présentement, le monde, là, quand on parle du monde, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. On a intégré ce monde-ci là, quand on est venu au monde. On est venu au monde. En venant au monde, on recevait un corps qui fait partie des corps qu'il y a dans ce monde. Puis ce monde est géré par un paquet de mondes qui marchent selon leur convoitise, leur passion, leur désir. Puis il n'y a plus de gêne aujourd'hui pour afficher leur convoitise, leur passion et leur désir. Tu peux te promener sur la rue et voir un bâtiment. Bienvenue, c'est un bar de femmes tout nues. Puis qu'il n'y a pas de gêne là. Tu peux rentrer là, puis aller te livrer à la luxure, ou à la prostitution. Il n'y a plus rien là. Tu peux prendre de la drogue, de la boisson. Le monde ne se cache pas. Tu peux, même si tu n'as jamais connu ça, ça c'est pas bien long, tu peux aller t'en acheter, puis tu peux participer à tout ce que je viens de dire. Aussi facilement que ça, c'est affiché, c'est dans le monde, c'est installé là, puis le monde sont plus gênés. C'est même rendu légal pour beaucoup de ces choses-là. Puis là, le monde nous présente une multitude d'opportunités de convoitise. Beaucoup plus que dans le temps de Jésus. Il n'y a pas des drogués sur tous les coins de rue, puis des alcooliques non plus. Je dis pas qu'il n'y en avait pas. Mais c'était pas comme aujourd'hui. C'est Aujourd'hui, tout le monde a de l'argent. Dans ce temps-là, il y avait de la misère à s'acheter le pain de la journée. Mais aujourd'hui, tout le monde a de l'argent. Tout le monde peut se payer des choses défendues. Puis ils sont pas présents, ils étaient pas présentés un bar de danseuse, ça n'existait pas dans ce temps-là, mais ça existe aujourd'hui. Pour dire que le monde nous présente une multitude d'opportunités de convoitise pour nous attirer à tomber dans leur péché, à désobéir à Dieu. 1 Pierre 2:1, ça nous dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il faut arriver à avoir une pensée que moi, je suis juste un voyageur sur la terre. Je suis pas un habitant de la terre. Même si j'ai 2 pieds sur la terre, moi, je suis né de nouveau, je suis sauvé, je suis un habitant du ciel. Je suis juste un pèlerin voyageur sur la terre pour un petit peu de temps. Puis là, il nous dit dans ce passage-là, pensez comme ça, puis abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Comme je disais au début, on est en guerre. Contre quoi qu'on se bat premièrement? C'est pas contre le diable qu'on se bat en premier. C'est contre nos propres convoitises. Puis là, il dit, t'es 2 pieds dans le monde, puis il y a juste de ça des convoitises autour de toi qui te sont à ta faire, particulièrement dans le temps où qu'on vit présentement. Tu peux profiter de n'importe quoi. Tu peux même tromper ta femme aussi facilement que ça. Tout le monde, pas tout le monde, mais tu auras des opportunités. T'auras des opportunités n'importe quand, des occasions faciles de vivre dans la débauche puis dans le péché. C'est aussi simple que ça. Puis Dieu nous demande, il dit ça, là, c'est des convoitises de ta chair qui te font la guerre à ton âme. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu, le corps, là, hein, le corps, la chair et le sang n'héritera pas du royaume de Dieu. Dieu va nous donner un nouveau corps. Celui-là, il va rester pourrir ici. Il va nous ressusciter puis nous donner un corps céleste qui ne peut plus se corrompre. Notre corps corruptible de corruption va devenir un corps incorruptible. Il n'y aura plus rien de ces désirs, passions, péchés qu'on a aujourd'hui. On transporte rien l'autre bord. Mais Dieu va ressusciter les âmes de ceux qui marchent avec lui. Fait que si tu étais à Jésus, t'es pardonné, Dieu te promet de te rendre puis t'amener à bon port, mais t'es en cours du chemin, puis là t'es en guerre, t'as une guerre contre ton âme. Ton âme, Dieu il l'a sauvé, mais il veut que tu restes sauvé, il veut que tu fasses partie des élus. Fait que là tu vas être en guerre, ton corps, il va avoir des convoitises qui vont être une guerre pour toi, pour ton âme. Puis si tu réalises pas, il dit dans Jacques, la convoitise, au verset 15, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, puis le péché étant consommé, produit la mort. Fait que la guerre de ton âme, c'est que ton âme risque de mourir si tu obéis aux convoitises de ton corps. T'as une guerre. Faut pas que t'écoutes tes désirs. Faut pas que t'écoutes tes passions. C'est pas Dieu qui met ça là. Ça vient de la chair qu'on a, puis on a tous des combats différents, mais c'est tous des combats à mort. C'est soit que tu vas faire mourir ton corps, ou soit ton corps, par ses péchés, va faire mourir ton âme. Tu vas être séparé de Dieu, tu rentreras pas. Tu vas t'éloigner. Je vais vous le montrer dans d'autres passages. L'apôtre Jean, là, j'ai dit l'apôtre Pierre qui vient de dire de penser que vous êtes un étranger puis un voyageur sur la terre, puis abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à ton âme. Ça, c'est Pierre qui a dit ça. Là, je vais vous lire un passage que Jean nous dit. L'apôtre Jean nous a aussi mis en garde des convoitises provenant de notre corps en regard avec le monde. Il nous dit dans 1 Jean 2, les versets 16 et 17, il dit, « Car tout ce qui est dans le monde, » Jean qui dit ça, « tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est pas Dieu qui a mis la convoitise en nous. C'est notre corps qui est attiré face en regardant ce qu'il y a dans le monde. Fait que les convoitises de ta chair ou la convoitise de tes yeux, parce qu'on est attiré de regarder des affaires, nos yeux sont attirés à regarder les choses du monde. Mais il dit ça, là, il dit, la convoitise des, ce qui vient, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez-vous que les choses qui sont présentées, c'est comme un immense présentoir. Là, on est dans l'Église, on pense pas au péché. Quand on sort de l'Église, on rentre les deux, on est deux pieds dans le monde. C'est comme un immense présentoir qui t'offre toutes sortes de convoitises. Tu marches à la rue, tu vois une fille assise sur un perron, puis elle est toute décolletée, puis elle a une petite tenue toute, que tu vois toute quasiment à travers. Elle est habillée pour exciter ta convoitise des yeux et la convoitise de ton corps. Ça, on parle d'une fille, ça peut être un gars aussi. Ça peut être toutes les autres convoitises. Là, je donne un tour, on revient toujours sur la sexualité parce que c'est un des plus pires, des plus fréquents où ce qu'on tombe aujourd'hui. L'amour de l'argent, c'est la même chose. Vouloir de l'argent, vouloir les richesses. Là, tu tombes en amour avec ça, puis tu pars sur le désir d'accaparer, puis de travailler, penser qu'à l'argent, puis de vivre que pour cela. Tu es en train de servir mammon. C'est un autre convoitise, je vais en parler un petit peu plus loin. Mais c'est justement dans le prochain verset. Une des pires convoitises, c'est l'amour de l'argent. Ça nous le dit dans 1 Timothée, là, c'est Paul qui le dit au chapitre 6, le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Ils tombent dans une tentation, ils tombent dans un piège, puis ils tombent dans beaucoup de désirs, des désirs en cause de notre corps, des désirs insensés puis pernicieux. Puis le mot pernicieux veut dire nuisible. Tu tombes dans des désirs insensés et nuisibles quand tu es attiré avec l'amour de l'argent, puis de vouloir posséder l'argent ou les biens. Ça devient une idolâtrie.
C'est vide.
C'est vide, tu cours après du vide, mais tu cours après de quoi qui te nuit. Tu tombes dans une convoitise, tu tombes dans un piège, tu tombes dans une tentation du diable. De te chercher à te faire courir après l'argent. Puis ça plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Puis ça peut être des chrétiens qui tombent dans la ruine et la perdition. Leur vie est perdue. Il y en a qui ont lâché le Seigneur pour suivre l'argent.
On ne peut pas servir
Dieu et mammon. Ça nous le dit à une autre place que Démas avait abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Il était tombé en amour avec le siècle dans ce temps-là, puis il a abandonné le ministère que Dieu lui avait donné. On n'est pas à l'épreuve. Si c'est écrit ces textes-là, c'est parce que Dieu veut qu'on réalise qu'on est en combat. Il veut qu'on soit debout lorsqu'il vient nous chercher. Ceux qui vivent selon leur penchant charnel, ils ne peuvent plaire à Dieu. Un gars qui est alcoolique, puis il est saoul, là, puis il est toujours saoul, puis où il est drogué, où il est dans le péché, t'as une vie qui déplaît à Dieu, et ça le dit carrément comme ça, Romains 8:8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça ne plaît pas du tout à Dieu. Dieu a son horreur. Puis il y a plein de passages qui nous le dit qu'une fois que tu marches attiré par ta convoitise va concevoir le péché. Parce que là, quand tu l'accomplis, ta convoitise, tu es dans le péché. Puis à cause du péché, ça produit la mort. Un chrétien doit demeurer toute sa vie en combat contre sa chair. Il n'y a pas de répit. C'est toute notre vie qu'il va falloir combattre avec ça. Combien de temps qu'il vous reste à vivre? Une soirée? Un mois? Un an? 25 ans? mais vous en avez pour le reste de votre vie à combattre. Il n'y a pas de répit. Le moment que vous allez laisser votre chair prendre dessus, vous êtes en train de tomber dans le péché, puis si vous ne sortez pas de là, vous allez mourir.
Il faut être vigilant.
Puis il faut être à l'écoute. Puis il y a des moyens que Dieu nous donne pour aller se fortifier dans le Seigneur. Dans Romains 8, 13, ça nous dit, si vous vivez selon la chair, ça parle à des chrétiens dans ce texte-là, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que pour mourir, il fallait que tu sois vivant. C'est qui sont vivants? C'est les enfants de Dieu, les nés de nouveau, sont vivants. Puis il dit, si tu marches selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Amen.
Fait que là, on, en même temps, on a le combat qui est perpétuel, puis c'est un combat à ne pas se laisser aller à notre corps, à ses désirs de péché, puis il faut demander à l'Esprit de Dieu pour être vivifié par la puissance de Dieu, demander à l'Esprit de Dieu de faire mourir les actions de notre corps. Puis ça nous amène à la vie. Il faut imiter Jésus. Jésus, il a résisté contre les tentations du diable. Et on voit trois tentations là, quand Jésus était tenté par le diable dans le désert. Il était tenté de s'agenouiller devant Satan. Satan il a demandé, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tous les royaumes de ce monde. Il a offert à Jésus, regarde-moi, c'est tout à moi la gloire de ce monde, je te la donne. Fait que la tentation, là, à ce moment-là, c'était d'être attiré, d'avoir un haut poste, puis d'être adoré par tout le monde en tant qu'être humain. Que Jésus, en tant qu'être humain, aurait été... Tout le monde serait à genoux devant lui. Mais pour y arriver, il fallait qu'il se mette à genoux devant le diable. Fait qu'il a dit non. Il n'en est pas question. Il a répondu avec un verset de la Bible pour combattre la tentation. L'autre tentation, ça faisait 40 jours qu'il jeûnait. Il avait faim. Puis le diable, il a dit, si t'es le fils de Dieu, change ta roche en pain. Il l'a tenté dans nourriture. Puis Jésus, il a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis l'autre tentation, c'était, t'es le fils de Dieu, c'est bien beau, je te mets à la montagne, je te dis, jette-toi en bas, puis Dieu va, il avait promis qu'il te sauverait. Il va envoyer un ange pour te poigner pour que tu te casses une jambe en tombant. Puis Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu. Fait qu'il a résisté aux tentations, je te dis pas qu'il a pas été tenté, ça dit, il a été tenté par le diable. Mais il a appris à utiliser la Bible, les versets de la Bible, puis résister au diable, puis il a rejeté les tentations du diable. Fait qu'il faut imiter Jésus. Autant qu'on sait que le Saint-Esprit peut faire mourir les actions de notre corps, la parole de Dieu peut être utilisée pour répondre à nos tentations. C'est ça. Il parlait aux gens de mauvaise vie puis aux prostituées, mais il se laissait pas aller à ses convoitises pour aller coucher avec.
Il était sûrement belle.
Il avait tout. Puis ça nous le dit aussi dans un autre passage. C'est vrai, là, dans un autre passage, ça nous dit, parce que des fois on dit, ouais, mais Jésus, il ne va pas être tenté par rien, il était Jésus. Mais Jésus était Dieu à l'intérieur, oui, mais le corps était homme. Fait qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais le homme qui est attiré, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais l'homme est attenté, le corps de Jésus est attenté. Y a-t-il un autre verset qui nous dit ça? Oui, un autre verset qui nous dit ça. Ça nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans succomber à ses convoitises. Cela lui a permis de nous comprendre, savoir quel genre de corps qu'on est en train de se battre. On voit ça dans Hébreux 4, le verset 15. Car on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Fait qu'il y a eu des désirs. Tous les péchés que vous pouvez penser, il a été tenté, mais il n'a jamais succombé à aucun. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre.
Puis là,
à cause qu'il n'avait pas fait de péché, là, il a pu prendre nos péchés. Si Jésus aurait tombé dans un seul péché, il était mort spirituellement, lui aussi, il aurait eu besoin d'un sauveur, puis il n'y en a pas d'autre. Puis toute l'humanité en entier aurait été jetée dans l'étang de feu. Jésus avec, parce qu'il n'aurait pas pu retourner voir son Père, il ne serait pas ressuscité après sa mort. Personne n'aurait eu la vie éternelle, même plus Dieu. Ça aurait été le chaos, ça aurait été terrible, mais c'est impossible, parce qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, on avait affaire au grand Yeshua, celui qui est venu du ciel, le Tout-Puissant, puis qui a combattu le dragon, puis a eu la victoire, puis le dragon l'a quand même assassiné, mais il a ressuscité d'entre les morts parce qu'il avait aucun péché, son Père l'a ressuscité, là il est allé présenter son sang sur l'autel dans le ciel, comme pour nous l'offrir à Dieu son Père, pour qu'on puisse avoir le cadeau de la vie éternelle. Mais Jésus était tenté sans commettre de péché. Il faut l'imiter. On a le même Saint-Esprit, on a la même parole de Dieu. Jésus est en nous. On peut arriver à vivre une vie sans péché. C'est le but. Je dis pas que je l'ai atteint, puis je dis pas que personne l'a atteint, mais on le vise. Puis il y a des versets qui le disent dans ce sens-là.
Mais on a
sa
miséricorde dans notre
âme. Quand on tombe, si on tombe, qu'est-ce qu'on a à faire? Demander pardon, se repentir. Il faut chasser ça. Si on reste dans le péché, la culpabilité va être là. Ça, c'est sûr. Mais puis on ne peut pas s'en sortir. Puis le pardon, il n'est pas là non plus. Il y a des conditions. Il faut que tu veuilles t'en sortir. Puis si tu veux t'en sortir, il te pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner puis nous purifier de toute iniquité. Puis qu'est-ce qu'on... Le Seigneur connaît nos faiblesses à cause qu'il a vécu ça, lui-ci. Puis il sait comment nous délivrer de nos péchés. Si lui, il a vécu la vie sans péché, il veut qu'on comprenne qu'on a des convoitises, mais il faut apprendre à se laisser guider par lui pour arriver à ne plus tomber dans ces affaires-là. Dans 2 Pierre 2,9, ça nous dit, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. » L'épreuve, c'est la tentation. Les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Les hommes pieux, Dieu sait comment les délivrer. C'est quoi ça, être un homme pieux? Oui. Oui, c'est des gens qui prient puis qui s'accrochent à Dieu puis qui ont le foi en Dieu puis qui espèrent en Dieu. Ceux-là, Dieu sait comment les délivrer. Les autres le seront pas. Fait que si une personne tombe à répétition, c'est parce qu'elle n'a pas encore appris à prier. Il est temps qu'elle apprenne à prier, à croire que Dieu peut la sortir. Si elle y croit pas, elle va rester dans son péché, ça dit, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit. Il faut s'accrocher à Dieu. Il faut vouloir s'en sortir. Si on est sincère et on veut livrer le combat, on va être victorieux et on va être debout quand Jésus va arriver.
Amen.
Puis Dieu gère nos tentations afin qu'on ne soit pas démesuré. Parce qu'il pourrait arriver des tentations au-delà de ce qu'on est capable de supporter, mais Dieu ne le permet pas. Dieu permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Fait qu'on dise pas, « Oh, je n'étais pas capable de résister. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu écoutes ton corps et tu te laisses aller avec ton corps, tu veux l'action, tu veux rentrer dans ce péché-là, c'est sûr que tu ne seras pas capable de dire non. Ton corps le veut, puis tu le veux. Si tu t'accroches à Dieu, puis tu pries Dieu, puis tu demandes au Saint-Esprit, puis il dit, 1 Corinthiens 10-13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » C'est toutes des tentations à la hauteur des humains. Il n'y a pas de tentation surhumaine que vous avez eue. C'est ça que ça dit. Puis Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Puis en plus de ça, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Fait que Dieu gère nos tentations. C'est pas Dieu qui nous tente, mais Dieu il est là, puis il dit au diable, ça fait là. Là, tu l'as tenté assez que là, laisse-la s'en sortir. Puis là, la personne, elle invoque Dieu, là. Dieu gère. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit il fait baisser le désir de convoitise dans le corps. Là, la personne est capable de dire, non, j'en veux plus de cette affaire-là. Arrière de moi, Satan, il est écrit telle affaire. Dieu veut, il dit, tu ne t'enivres pas de vin, c'est de la débauche. Tu te sers d'un verset, là, puis là, tu combats contre le diable. Tu t'en sors. Parce que la puissance de Dieu dans le Saint-Esprit fait mourir ton désir, puis toi, parce que tu pries, il te donne aussi les versets, puis il te donne le moyen de t'en sortir pour que tu la supportes, que tu passes à travers et que tu aies la victoire. Oui, puis il faut le résister avec les versets de la Bible. C'est de la puissance de Dieu, et dans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est aussi dans la parole que tu confesses du verset de la Bible. C'est un coup d'épée. C'est l'épée de l'esprit, la Bible, hein? Puis quand Jésus sert d'un verset pour répondre au diable, c'est un coup d'épée qu'il vient d'y donner. Puis là, ça nous dit, à la troisième tentation, Jésus, il a dit, retire-toi, Satan, puis le diable s'est en allé. Il n'y a pas d'emprise. Il n'y a pas d'emprise sur Jésus. Comme il n'y a pas d'emprise sur vous. Parce qu'on est plus que vainqueurs en Jésus-Christ. S'il y a une emprise parce qu'il y a un péché, parce que si on demande pardon, le péché est pardonné, il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus le droit. Tu peux le chasser, il va s'en aller, tu es obligé de s'en aller.
On a l'autorité de Jésus-Christ.
C'est ça, on a l'autorité de Jésus-Christ, tu peux le rejeter, tu prends un verset de la Bible, puis tu viens de lui donner un coup d'épée dans la face, puis là, il revient d'abord. Mais ton corps, lui, peut avoir un désir, là, faut que tu demandes au Saint-Esprit de faire mourir l'action de ton corps. Puis là, tu vas avoir la victoire. C'est par la puissance de Dieu, non pas par nos capacités. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire mourir. C'est l'épée de l'Esprit qui va combattre. Dieu gère pour pas que ça soit trop fort contre toi, puis te donne le moyen de t'en sortir, puis tu as la victoire dans ta vie. Le Seigneur nous demande de se fortifier dans la prière afin de devenir victorieux. Faut prier. Ici, délivrer les hommes pieux. Fait que faire apprendre à prier, Seigneur, viens me libérer de mes convoitises. Qu'est-ce qu'il va avoir au résultat après avoir fait des prières sincères puis intenses, puis prier régulièrement, tu vas avoir la victoire. Ton péché, il va s'éteindre dans ta vie. Il va t'en sortir, tu n'auras plus le goût. Je te dis pas que tu n'auras pas d'autres tentations. Parce que Jésus, quand il était tenté par le diable, ça nous dit... Et le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. Le diable a retourné tenter Jésus dans d'autres moments.
Il check des moments de faiblesse.
Oui, il check nos moments de faiblesse, puis là, il vient, puis il nous en... Mais tu as eu la victoire dans cette attaque-là. Une guerre, là, c'est comme tu as plusieurs combats, tu as plusieurs batailles. Là, on n'est pas pour penser à toutes les batailles de notre vie. Affrontons les batailles d'aujourd'hui. On en a bien en masse. Une à la fois, puis là, tu pries pour ça, puis tu vas chercher tes victoires. Première nouvelle, tu vas savoir, tu es libéré d'un paquet d'affaires. Tu es taponné, tu es esclave, parce qu'on ne le savait pas, puis qu'on n'utilisait pas les armes de Dieu pour y arriver. Puis à un moment donné, tu réalises que c'est là, puis tu commences à le faire. Ben, si tu le fais pas, c'est pas un autre qui va le faire à ta place. C'est toi, faut que tu décides de devenir pieux, de prier, puis de demander à Dieu, puis Dieu il sait délivrer les hommes pieux. Ou les femmes pieuses, c'est la même affaire.
Parce qu'on peut pas lâcher le Seigneur,
il n'y a pas d'autre chose. Puis il faut prendre toutes ses armes pour résister. La prière, ça en est une, mais il faut prendre toutes ses armes pour résister. C'est le dernier verset, Éphésiens 6, 13, nous dit, C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Fait que le mauvais jour, c'est quand tu es dans le combat. Là, faut que tu résistes. Puis quand tu as eu la victoire, tu marches au-dessus de tes problèmes. Puis là, tu tiens ferme après avoir tout surmonté. Mais ça te prend les armes de Dieu. Pensons pas de s'en sortir par nos propres forces humaines. Il faut apprendre à prier. Si on n'a jamais prié, c'est grandement le temps de prier. Puis si on a des, mettons, un problème de caractère, notre péché, c'est un problème de caractère, mais il faut demander à Dieu, demander pardon à Dieu, prier Dieu de faire mourir cela, puis chasser ça quand ça vient de l'extérieur, puis chaque bataille, tu gagnes, puis à un moment donné, oups, tu as gagné la guerre. C'est ça le secret, frères et sœurs. Fait que le premier verset qu'on est en train d'étudier, ça rapporte le verset de Jacques. Il dit, quand que t'es tenté, que personne ne dise c'est Dieu qui me tente. Dieu peut pas être tenté par le mal, puis il tente pas lui-même personne. Mais chacun, il est tenté, il est tiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais la convoitise, quand elle a conçu, enfante le péché. Puis le péché, quand il est consommé, produit la mort. Si on veut la victoire, faut apprendre qu'on a la victoire en Jésus, par le Saint-Esprit, par la parole, par la prière, par les armes de Dieu, on va avoir la victoire contre les convoitises. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne le combat spirituel, le combat contre le péché, le combat contre nos propres convoitises. On veut pas s'égarer, Seigneur, on veut marcher dans la sainteté, comme Jésus, d'une manière pure, puis résister contre le péché. Donne-nous la victoire. Donne à chacun de devenir avec des personnes pieuses, des personnes qui prient, des personnes qui se revêtent de les armes de Dieu, qu'on puisse aller chercher tes armes, te faire confiance, confesser notre état et de confesser ta parole. Tu nous donnes la victoire, Seigneur, puis je te remercie de ce que tu veux faire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.